Même si ensuite l'Église donne des réponses par rapport à notre propre croix, donc par rapport à nos propres souffrances, il n'empêche que la souffrance qui dans le plan de Dieu, on verra d'ailleurs quelle est la place dans le plan de Dieu, mais cette souffrance, quand elle est mal gérée, eh bien, elle peut être à la source de notre perte. Et la souffrance bien gérée, au contraire, et telle qu'elle est voulue par Dieu, doit être au contraire donc à la source de notre sanctification. Donc on voit bien que le démon, en fait, des armes qu'il utilise pour faire tomber les âmes, c'est l'attrait du plaisir, ou ensuite aussi c'est soit la crainte des souffrances pour nous faire éviter de continuer notre route dans le droit chemin, donc il grossit les difficultés, donc c'est la crainte des souffrances qui nous empêche d'avancer. Et puis ensuite, quand la souffrance est là, il va chercher lui-même aussi à nous décourager ou même à nous amener à la révolte par rapport à certaines souffrances. Donc on voit bien que les deux armes du démon, c'est soit l'attrait du plaisir, ou soit c'est la menace des souffrances, ou aussi la crainte des souffrances qui pourraient venir. Ou alors aussi, il va chercher à nous empêcher de bien gérer ces souffrances. Donc il me semble que dans la vie, pour arriver à avoir une bonne vie chrétienne, il faut essayer de regarder de temps en temps au moins, même souvent, mais moins de temps en temps, d'essayer d'avoir un regard serein sur le mystère de la croix. Mystère de la croix de notre Seigneur et mystère de la croix dans notre vie. Pour arriver petit à petit, si vous voulez, à nous persuader toujours davantage que la croix est vraiment pour nous source de salut. Et si on arrive à intégrer cette donnée, eh bien, je pense que ce sera plus facile lorsque nous aurons une plus grande croix à supporter. Même s'il est vrai que, en général, quand une grande croix nous tombe dessus, sur le moment, on n'a jamais la lumière, vous voyez. Une grande croix qui nous tombe dessus, c'est le tunnel. On a beau avoir réfléchi, médité, prié, au moment de la croix, eh bien, c'est le trou noir. Alors il y a peut-être des lueurs quand même qui nous montrent, mais c'est tout. La croix, n'importe comment, cesserait d'être vraiment une croix si elle était vraiment agréable, vous voyez, à porter, quoi. Il y a toujours un côté douloureux. Mais lorsque on connaît quand même malgré tout, donc ce que je vais vous dire maintenant, je pense que on a quand même plus, même si on est dans le trou noir, donc on n'a pas la lumière sur le moment, mais au moins le fait de connaître ces principes nous aide malgré tout, dans le noir, donc dans l'obscurité, à adhérer, au moins que la fine pointe de notre âme adhère à la volonté de Dieu. Et après coup, alors, lorsqu'on a su accepter la souffrance, eh bien, la lumière, alors, vient. Et donc, après coup, on voit déjà mieux pourquoi le bon Dieu a pu permettre dans notre vie telle ou telle épreuve. Oui. Mais ça ne vient qu'après coup. Et ça, c'est déjà sur la terre. Donc déjà sur la terre, on peut, les âmes le disent, après coup, lorsqu'elles arrivent en fin de vie, par exemple, ou déjà après un certain temps, lorsqu'une épreuve s'est un petit peu plus éloignée, eh bien, on peut voir parfois, pas toujours, mais on peut voir pourquoi le bon Dieu a permis telle épreuve. Mais alors, quand on sera au ciel, alors là, bien sûr que tout va s'éclairer. Donc là, en ce moment-là, on verra bien pourquoi le bon Dieu avait permis ici-bas telle ou telle épreuve. Mais donc, essayons en tout cas de ne pas imiter donc ces païens qui se révoltent toujours face à la souffrance, et essayons d'avoir un regard, si possible, paisible, serein, sur ce grand mystère. Bien qu'il soit, encore une fois, beaucoup plus facile de discourir sur ce mystère que de le vivre concrètement dans la vie de tous les jours, surtout quand on a des grosses épreuves. Donc tout d'abord, je voudrais vous montrer que la réaction humaine, si vous voulez, face à la souffrance, et celle que l'on peut voir en Saint-Pierre. Saint-Pierre était quand même un homme de foi. La preuve, c'est que Saint-Pierre, lorsque notre Seigneur dit « Pour vous, qui suis-je ?» Eh bien, Saint-Pierre donc a tout de suite cette réaction. Il dit « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc, vous voyez, Saint-Pierre est un homme de foi. Eh bien, Saint-Pierre, qui est un homme de foi, lorsqu'ensuite notre Seigneur va annoncer la Sainte Eucharistie, là encore, il aura un bel acte de courage et de foi. Notre Seigneur, pour la première fois, annonce qu'il va se donner à manger aux hommes. Et il dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez de son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Alors nous savons ce que c'est que l'Eucharistie. Voyez, on a étudié, on sait très bien que c'est par des hosties qui sont faites par les carmélites. C'est comme ça qu'on peut communier, donc avec une petite hostie, voilà. Mais notre Seigneur n'a pas donné ces détails, si vous voulez. Alors la première fois qu'un homme qui est devant vous, qui vous dit, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Alors ça paraît difficile. Alors comme humainement, justement, ça paraît difficile, eh bien plusieurs, en ce moment-là, ont quitté notre Seigneur. Et alors notre Seigneur, en ce moment-là, a posé la question à ses apôtres, mais est-ce que vous allez m'abandonner? Et alors Saint-Pierre a pris la parole et il a dit, à qui rions-nous? Vous avez la parole de la vie éternelle. Ce qui veut dire, c'est pas, ah oui, j'ai compris ce que vous avez dit, non, pas du tout, c'est, vous avez les paroles de la vie éternelle. Donc, vous êtes Dieu, vous m'avez prouvé que vous étiez Dieu parce que vous avez réalisé les prophéties de l'Ancien Testament, vous avez fait des tas de miracles devant nous qui prouvent bien que vous êtes Dieu, donc ce que vous dites est vrai. Moi, je le comprends pas, mais j'ai confiance, vous voyez. Quand notre Seigneur, qui est Dieu, donc met devant nous un mystère, nous devons adhérer à ce mystère. Donc il ne s'agit pas de comprendre, il s'agit d'accepter. Et alors, Saint-Pierre, qui était donc un grand homme de foi, lorsque notre Seigneur annonce qu'il va souffrir et mourir, alors là, pour lui, c'est trop, quoi. Trop, c'est trop. Donc notre Seigneur, pour la première fois, annonce jusqu'en dans les détails tout ce qu'il devra subir, la flagellation, mourir sur une croix. Après, il dit qu'il va ressusciter, bon. Mais il annonce les tourments de sa croix et sa mort. Et alors, réaction de Saint-Pierre, « À cela ne plaise, Seigneur, cela ne vous arrivera pas. » Oula, et oh, Saint-Pierre, pour qui tu te prends, hein? Alors, Saint-Pierre, donc, il avait nature prime sautière, il répondait du tac au tac, mais notre Seigneur aussi, hein, il est capable de répondre du tac au tac. Hein. Donc, réponse de notre Seigneur, « Arrière Satan, tes pensées sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme. » Ouïa. Donc là, il s'est senti tout petit, quoi. Il s'est refait tout petit, bon. J'aurais mieux fait de me taire. Eh bien, voyez que Saint-Pierre, lorsque notre Seigneur annonce le mystère de la croix, alors qu'il est un homme de foi, eh bien, il ne saisit pas, et donc, parce qu'il aime notre Seigneur, bien sûr, hein, il dit, non, cela ne vous arrivera pas. Et notre Seigneur lui dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles d'un homme, voyez. Et donc là, on touche ici la transcendance de Dieu, lorsque Dieu manifeste, la transcendance de notre Seigneur. Lorsque notre Seigneur parle d'une façon purement humaine, on le comprend bien, mais lorsqu'il parle un langage qui dépasse nos conceptions humaines, notre vue humaine, notre façon de voir des hommes, alors là, ça nous dépasse. Et pourtant, il faut adhérer. Alors si Saint-Pierre, vous voyez, a eu cette réaction alors qu'il était un grand homme de foi, il ne faut pas que nous soyons surpris que nous-mêmes, nous ayons aussi cette réaction de vouloir cacher la croix, soit la croix de notre Seigneur, ou soit notre propre croix dans notre propre vie. Vous voyez. Et c'est pourtant important de bien saisir ce mystère. Parce que ce mystère de la croix, c'est finalement le mystère par excellence du chrétien. Hein. La première chose qu'on apprend aux enfants, c'est le signe de la croix. Vous voyez. Après, ensuite, la maman dit, ben, regarde le crucifix, Jésus est là, donc fais un baiser à Jésus. Donc, on apprend tout de suite, la première chose qu'on apprend, même aux enfants, c'est à regarder la croix, aimer la croix. Bon. Et ensuite, après, ben, nous devons porter, bien sûr, cette croix dans notre propre vie, vous voyez. Si notre Seigneur a souffert sa croix, et s'il a tant souffert jusqu'à mourir pour nous sur une croix, c'est pour nous apprendre, nous-mêmes, à ne pas nous révolter face à la souffrance et face à la mort. Lui, en lui-même, n'avait pas besoin de souffrir et de mourir. Il aurait très bien pu, par un simple acte de charité, eh bien, réparer nos péchés. Mais il a voulu souffrir, et souffrir atrocement, pour nous aider à accepter nos propres souffrances. Que celui qui m'aime, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc comment prouver notre amour à notre Seigneur? Donc en étant fidèle dans ses commandements, mais aussi en acceptant la part de croix qu'il nous donne pour nous sauver. Oui. Et Monseigneur Lefebvre, dans un livre, je ne sais pas si vous connaissez, en vente dans cette salle, non, c'est juste à côté. Il disait ceci. La notion de sacrifice est une notion profondément chrétienne et profondément catholique. Notre vie ne peut pas se passer du sacrifice. Dès lors que notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même, a voulu prendre un corps comme le nôtre et nous dire « Prenez votre croix et suivez-moi si vous voulez être sauvés » et qu'il nous a donné l'exemple de la mort sur la croix, qu'il a répandu son sang, oserions-nous, nous, ces pauvres créatures, pécheurs que nous sommes, ne pas suivre notre Seigneur. Suivre notre Seigneur en portant sa croix, voilà tout le mystère de la civilisation chrétienne. Voilà ce qui est la racine de la civilisation chrétienne, de la civilisation catholique. Tout le monde a des difficultés, épreuves personnelles, épreuves de santé. Eh bien, nous ne serions pas capables de comprendre ces épreuves si nous ne pensions pas à la sainte victime qui s'offre sur l'autel. Toute la religion catholique est fondée sur le fait que nos actions sont méritoires. Nous le répétons à tout instant. Lorsque vous êtes cloué sur votre lit à l'hôpital et que vous souffrez pendant des mois, vous savez que si vous offrez vos souffrances avec celles de notre Seigneur, vous partagez le calvaire et par le fait même, vous répandez tous les mérites que vous gagnez sur le monde et sur vous-même pour votre conversion et votre rédemption. C'est cela qui soutient le catholique. Les protestants, au contraire, ne croient pas que nos actions soient méritoires parce qu'ils prétendent que tout a été mérité par notre Seigneur sur la croix du calvaire. Par conséquent, selon les protestants, nous ne pouvons plus rien mériter. Voyez la différence. Qu'on vienne à nous dire « toutes vos actions sont inutiles pour votre salut, elles ne sont pas méritoires ». Alors, à quoi bon vivre? À quoi bon souffrir? À quoi bon travailler? C'est ce qu'on dit au père et à la mère de famille. Vous souffrez dans votre famille? Vous avez des difficultés? Vous traversez des épreuves dures et difficiles? Songez à unir vos souffrances à celles de notre Seigneur Jésus-Christ sur le calvaire, à celles de notre Seigneur Jésus-Christ au sacrifice de la messe. Allez donc au sacrifice de la messe. Vous y trouverez le soutien de votre vie, le secours qui vous donnera la force de supporter vos épreuves. Alors le père et la mère de famille qui suivent ce conseil se disent intérieurement « En effet, notre Seigneur est en moi par sa grâce et je m'unis à ses souffrances, donc cela vaut la peine de souffrir. Combien de ceux qui ont été enfermés dans les camps de concentration, dans les prisons, qui ont souffert le martyre et qui le souffrent encore maintenant, le souffrent uniquement avec cette pensée-là. C'est ce qui les soutient. Penser qu'ils unissent leurs souffrances à celles de notre Seigneur Jésus-Christ sur le calvaire. » Alors dire après cela que la messe ne vaut rien pour effacer les péchés, que la messe n'est pas un sacrifice, un acte méritoire, qu'il n'y a aucune œuvre méritoire, sous prétexte que notre Seigneur a tout fait au moment du calvaire, c'est tout à fait contraire à ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Portez votre croix et suivez-moi. Pourquoi porter la croix et le suivre si cela n'est pas méritoire? Pourquoi notre Seigneur nous a-t-il dit cela? Pour nous unir à sa croix. Voilà. Donc, donc la nécessité pour nous de bien saisir ce mystère de la croix. Et comme disait Mgr Lefebvre, et c'est sûr, c'est que si on ne comprend pas ce qu'est le sacrifice de la messe, qui reproduit le sacrifice du calvaire, eh bien, à ce moment-là, on aura beaucoup plus de mal à porter notre croix. Parce qu'en effet, de chair et d'os, on a besoin d'exemples visibles. Et donc, s'il est vrai que la messe nous remet sous les yeux le sacrifice du calvaire, si la messe est vraiment nous rend présent le sacrifice du calvaire, eh bien chaque fois que je vais à la messe, eh bien à chaque messe, je suis replacé au pied du calvaire comme la très sainte Vierge Marie, comme saint Jean. Et alors en voyant toutes ces souffrances de notre Seigneur, souffrances physiques, souffrances morales, souffrances spirituelles, bien sûr que je me sens plus fort pour porter ma croix, parce que je relativise ma propre croix par rapport à celle de notre Seigneur et surtout j'unis mes souffrances à celles de notre Seigneur. La goutte d'eau que le prêtre met dans le calice, qui l'unit au vin, qui va devenir le précieux sang de notre Seigneur, symbolise justement la part de sacrifice que notre Seigneur met sur notre route pour que nous puissions avoir une vie qui lui soit agréable. Alors je vais développer un petit peu plus, si vous voulez bien, pour mieux accepter donc la part de souffrance que le bon Dieu nous donne pour faire notre salut. Je vais développer un petit peu plus la souffrance dans le plan de Dieu. Donc tout d'abord, il faut bien rattacher le mystère de la souffrance, comme le mystère de la mort, au péché. Voyez. La tendance naturelle de l'homme, lorsqu'on se trouve face à la souffrance ou face à la mort, assez facilement, c'est de s'en prendre à Dieu. Ouais, pourquoi le bon Dieu permet ça? Pourtant, moi, j'essaie d'être gentil, et paf, il m'arrive encore cette tuile. On a tendance à attribuer à Dieu donc la souffrance, ou attribuer à Dieu la mort. Et normalement, la réaction catholique face à la souffrance et face à la mort, ça ne doit pas être « Ouais, pourquoi le bon Dieu permet ça ?» Ça doit être plutôt « Maudit péché », vous voyez. Maudit péché de nos premiers parents qui a entraîné la souffrance et la mort. Voyez. Parce que Dieu n'a pas fait la mort et Dieu n'a pas fait la souffrance. La souffrance et la mort sont la conséquence du péché originel. Donc chaque fois qu'on est face à la souffrance et face à la mort, eh bien, il faut revenir au péché originel. Dans le plan de Dieu, eh bien, l'homme et la femme devaient se sanctifier uniquement dans la joie, uniquement. C'était le paradis terrestre, c'était un paradis, hein. Et donc, nos premiers parents ont été créés impassibles et immortels. Donc, ils ne connaissaient pas la souffrance et ils ne devaient pas connaître la mort. Mais notre Seigneur a dit, bon, si vous mangez du fruit défendu, vous mourrez. Donc, la souffrance et la mort sont la conséquence du péché. C'est pour ça que dès qu'ils ont commis le péché, eh bien, le bon Dieu dit à l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front. Donc, place de l'homme, donc là, il parle de la souffrance qu'aura l'homme spécialement dans son travail. Et à la femme, il lui dit, tu enfanteras donc dans la douleur. Et tu enfanteras dans la douleur, c'est donc tout ce qui concerne, eh bien, non seulement, parce qu'aujourd'hui il y a des enfantements sans douleur, donc ça, ce n'est pas uniquement le moment où la femme met un enfant au monde, mais c'est tout le cycle de vie qui est présent dans la vie d'une femme qui occasionne pour elle de souffrance d'une façon très régulière. Et puis ensuite, après, ça concerne aussi, tu enfanteras dans la douleur, eh bien, tout ce qui concerne l'éducation des enfants, le devenir des enfants, et même quand ils sont adultes, eh bien, ils restent les enfants, et donc quand un enfant tourne mal, lorsqu'un petit enfant tourne mal, eh bien, tout ça, ça fait partie des souffrances que l'on a endurées. Eh bien, il faut voir à travers cela, la conséquence, donc, du péché. Tu enfanteras dans la douleur. Donc, il faut bien rattacher, en tout cas, la souffrance et la mort, la rattacher au péché originel, la rattacher donc à l'homme et non pas à Dieu. Voyez. Alors, dans l'Ancien Testament, le péché originel, la souffrance, pardon, était surtout vue comme châtiment. Parce que de fait, au départ, dans le plan de Dieu, la souffrance est d'abord un châtiment. C'est la conséquence du péché. Mais alors, si la mort et la souffrance sont la conséquence du péché, comment s'expliquer alors la souffrance des innocents? Alors d'abord, il y a une réponse que je vous ai déjà donnée dans une instruction, à savoir que Adam a commis son péché en tant que chef de l'humanité, et donc toute l'humanité était incluse en lui. Et donc le péché originel en nous n'a pas uniquement raison de peine, mais aussi raison de faute, par le lien qui nous unit à nos premiers parents. Ce n'est pas un péché personnel, mais c'est un péché de nature, et donc qui touche toute la nature. Donc, c'est la première réponse. Mais ensuite, après, donc, se pose la question de la souffrance des innocents. Alors, cette question-là, de la souffrance des innocents, ce n'est pas depuis simplement aujourd'hui qu'on se la pose. Déjà, dans l'Ancien Testament, nous voyons cette question qui est posée à travers le livre de Job. Job, donc, était un homme juste, Job qui était fidèle à Dieu, eh bien, il lui arrive tuile sur tuile. Donc sa maison qui s'écroule, ses animaux qui meurent, c'était pas la fièvre aphteuse, mais enfin il y avait d'autres maladies à l'époque. Ce sont les récoltes après qui pourrissent, et puis finalement après ce sont ses enfants qui meurent. Bon, il arrive vraiment, et après lui-même se retrouve sur un tas de fumier, donc avec des ulcères, avec des souffrances atroces. Alors Job ne comprend pas pourquoi il lui arrive tant de souffrances. Et puis sa femme, en plus, qui en rajoute une louche en lui disant si t'es à toutes ces souffrances, c'est parce que t'as péché, avoue ton péché. Et donc, et lui disait non, je n'ai pas péché. Alors bien sûr qu'on est tous pécheurs, mais il n'avait pas fait de grosses fautes qui auraient extérieurement pu mériter un tel châtiment. Et donc à la fin, enfin au milieu de ces souffrances qui sont vraiment atroces, eh bien Job lui-même s'en prend à Dieu lui-même en disant eh bien mon Dieu, expliquez-moi quoi, pourquoi je souffre. Et à la fin du livre de Job, le bon Dieu va apparaître. Mais il va apparaître en Dieu et non pas en homme. Voyez. Et comme le bon Dieu n'est pas un homme, eh bien, il ne se met pas au niveau de l'homme. Il reste à son niveau de Dieu. Donc il ne répond pas directement à la question posée, il va lui poser d'autres questions. Il va lui dire, mais quand j'ai créé le monde, là, est-ce que j'ai dû faire appel à toi? Quand j'ai dû faire les étoiles, donc regarde le monde. Donc il lui montre en fait, il essaie de lui faire prendre conscience de la complexité du monde et en même temps de l'harmonie qui existe dans le monde et de l'ordre de l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, pour essayer de lui faire prendre conscience en fait que Dieu est infiniment au-dessus de lui. Et alors au fur et à mesure où le bon Dieu lui montre toutes les merveilles de l'univers, alors en ce moment-là il se dit, moi qui je suis, un homme pour me permettre de juger Dieu? mais qui je suis pour me permettre de porter un jugement pareil? Et donc, il, du coup, à la fin du livre de Job, il va se remettre à sa place. Et donc, il va dire, oui, j'ai parlé une fois, la prochaine fois, je me tairai. Donc, il se met vraiment tout, tout petit. Et puis, finalement, le bon Dieu, ensuite, après, parce qu'il a eu cette humilité, eh bien, finalement, va lui rendre, après, les biens qu'il a perdus. Donc, il va retrouver, après, une famille nombreuse. Bon, et tout va donc bien se terminer dans l'histoire de Job. Mais en attendant, il y a eu ce passage difficile. Mais c'est intéressant de voir que la réponse de Dieu, vous voyez, c'était de lui montrer sa transcendance, lui faire prendre conscience de sa transcendance. Vous voyez. Et nous, avec nos raisonnements humains, on voudrait tout comprendre. On voudrait comprendre pourquoi le bon Dieu nous fait passer par tel et tel chemin. Vous voyez. Mais qui sommes-nous pour permettre de juger Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'un homme pour se permettre de juger Dieu? Le jour où on paraîtra devant le bon Dieu, je suis persuadé que la première chose qu'on fera, ce ne sera pas de dire, ah ben, enfin, maintenant, vous êtes là, alors enfin, vous allez pouvoir m'expliquer, hein, parce que vraiment, j'ai pas l'impression, si vous voulez, que ce sera exactement l'attitude qu'on aura vis-à-vis de Dieu. Hein, ouais. En ce moment-là, c'est, quand le bon Dieu révèle sa transcendance, l'homme, on se met tout petit, hein. Regardez dans le mystère de la transfiguration, lorsque notre Seigneur apparaît transfiguré, donc il montre d'abord la douceur de sa présence. Donc, Saint-Pierre éprouve une grande douceur en voyant notre Seigneur transfiguré. Il dit qu'il est bon, Seigneur, pour nous d'être ici. Dressons-y trois tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Donc ça, c'est l'aspect d'onction et de douceur que le bon Dieu nous donne parfois dans la prière. Mais ensuite, la voix du Père va se faire entendre. Et à ce moment-là, cette voix va être si forte pour eux, si disproportionné par rapport à notre pauvre nature humaine, que les trois apôtres se retrouvent face contre terre. Et donc là, ils se sentent vraiment tout petits. Face à la grandeur de Dieu, l'homme, il se met vraiment tout petit. Donc, qu'est-ce que l'homme pour se permettre de juger Dieu? Et pensez, là encore, que dans la Sainte Écriture, on a d'autres exemples. Regardez la Sainte Vierge, par exemple, lorsque notre Seigneur donc reste au temple pendant 3 jours. Donc, une fois aussi, dans une autre action, j'ai pris cet exemple, mais je le reprends. Eh bien, je disais que, bien sûr, que humainement, on peut se dire quand même que, puisque notre Seigneur, quand même, il connaît très bien le secret des cœurs, il sait très bien ce que c'est qu'une maman, il connaît sa mère, il lit aussi l'avenir. Donc, il pourrait dire, mais il aurait quand même très bien pu prévenir sa mère, quoi. Il aurait très bien pu prévenir Saint-Joseph. Bon, moi, ça aurait empoigné cette angoisse. Donc, 3 jours d'angoisse. La Sainte Vierge, au bout de 3 jours, eh bien, elle finit par le retrouver au temple. Et spontanément, c'est le mot qui lui sort de sa bouche dès qu'elle le voit. Mon fils, pourquoi avez-vous agi ainsi avec nous? Et là encore, notre Seigneur, il est Dieu. Donc, il ne va pas répondre à la question d'une façon purement, enfin, très claire comme on pourrait nous-mêmes, on aurait pu s'y attendre. Il va de nouveau répondre à la question en posant une autre question. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Réponse après, enfin, la précision donnée par la Sainte Écriture, ils ne comprirent pas la réponse qu'ils venaient de faire, mais donc la Sainte Vierge gardait tout cela dans son cœur. Donc ils ne comprirent pas. Alors si la Sainte Vierge, elle ne comprenait pas notre Seigneur, ne soyons pas surpris nous-mêmes, voyez, de ne pas toujours tout comprendre de ce qui nous arrive dans notre vie, voyez. Et donc ça, c'est aussi important de savoir, c'est que avoir la réaction de se dire pourquoi, voyez. Il y a une épreuve qui nous tombe dessus. Pourquoi? C'est la réaction humaine, vous voyez. Mais sur le moment, pas de réponse. Mais la Sainte Vierge n'a pas eu de réponse, parce que la réponse qu'on lui a donnée n'était pas satisfaisante pour son esprit. Mais malgré cela, elle ne s'est pas révoltée. Elle n'a pas dit, je veux une réponse. T'as pas répondu à ma question. Je te repose la question. Non, pas du tout. Elle conservait tout cela dans son cœur. Ouais. Donc, ça, c'était la réaction de la Sainte Vierge. Et vous pouvez remarquer que ce même pourquoi, eh bien, va apparaître même jusque sur la bouche de notre Seigneur lui-même, voyez. Lorsque notre Seigneur sera au paroxysme de la souffrance, hein, sur la croix, eh bien, la plus grande souffrance qu'il va avoir, ça va être celle de la séparation de son Père. Séparation mystique et mystérieuse, parce que même sur la croix, sur la fine pointe de son âme, je dirais, restait pleinement uni à son Père, puisqu'il avait même la vision béatifique. Mais ça n'empêche que notre Seigneur, dans la quatrième parole, donc il y a 7 paroles sur la croix, donc la quatrième, c'est celle qui est celle du milieu, eh bien, la parole centrale, notre Seigneur va dire, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Oui. Donc notre Seigneur, au paroxysme de la souffrance, lui-même ne comprend pas ce qui lui arrive, oui, d'une certaine manière. Hein, parce qu'il dit, pourquoi? Pourquoi? Oui. Et sur le moment, pas de réponse. Alors bien sûr qu'après coup, après ce serait, on peut le voir avec le recul, comme je vous ai dit, les épreuves sur le moment, on ne voit pas le pourquoi. Et avec le recul, on peut voir pourquoi. Le bon Dieu, en fait, ne permet les séparations que dans le but d'union plus profonde, voyez. Donc par exemple, si la Sainte Vierge a éprouvé ces 3 jours de nuit, hein, entre quand l'enfant Jésus avait 12 ans, c'était pour la préparer, en fait, à une épreuve encore plus grande, à savoir les 3 jours où notre Seigneur allait être au tombeau. Donc le bon Dieu nous aménage des souffrances tout au long de notre vie, mais il y a une gradation qui existe, parce que s'il nous donnait une très grosse souffrance sans aucune préparation, on risquerait en ce moment-là d'être complètement par terre. Voyez. Alors il aménage des transitions. Et donc si la Sainte Vierge a connu ses 3 premiers jours de souffrance, c'était pour la préparer aux 3 autres jours de souffrance. Maintenant, il y a aussi un autre but, c'est que il y a eu 3 jours de séparation entre la Sainte Vierge et son fils. Ces 3 jours de souffrance symbolisent un petit peu les 3 jours de la vie présente, parce que la vie présente, elle est vraiment très très courte, même si elle nous paraît longue, la vie, à certains moments. Les personnes âgées vous diront toutes que la vie est courte. Donc les 3 jours symbolisent un petit peu la vie présente. Et après ces 3 jours de souffrance, eh bien, notre Seigneur a vécu dans une douce intimité avec Saint Joseph et la Sainte Vierge pendant 18 ans. Et les 18 ans symbolisent la vie future, donc c'est le bonheur du ciel. Donc le bon Dieu permet les séparations dans le but d'union plus profonde. En effet, le dernier mot finalement de Saint Luc dans cette histoire, c'est « et il leur était soumis ». Donc il y a eu une grande intimité donc entre notre Seigneur et sa mère. Donc ici-bas, c'est pareil. Donc il y a parfois des séparations que le bon Dieu permet dans le but ensuite d'union plus profonde. Soit plus spirituelle dans ce que nos êtres chers partent de l'autre côté, ou soit, bon, après il y a encore d'autres motifs qui peuvent aussi nous échapper. Et donc pour notre Seigneur lui-même, vous voyez, si notre Seigneur a connu la séparation de son Père, c'était d'abord pour nous faire prendre conscience de ce que c'est que le péché. Notre Seigneur, sur la croix, a expié le péché, et par le péché, l'homme se sépare de Dieu. Et donc notre Seigneur nous a mérité d'être réunis à Dieu en éprouvant lui-même la séparation de Dieu. Vous voyez. La séparation de Dieu a été éprouvée par notre Seigneur pour nous faire mériter à nous-mêmes d'être unis à Dieu. Donc le bon Dieu ne permet les séparations que dans le but d'union toujours plus profonde. Donc jusqu'à la venue de notre Seigneur, on voit surtout à travers la souffrance l'aspect de châtiment. Et c'est vrai que la souffrance, dans le plan de Dieu, est d'abord un châtiment. Alors maintenant, il y a la question de la souffrance des innocents. Alors le bon Dieu permet donc ces souffrances, parfois aussi avec des raisons qui peuvent, c'est vrai, nous échapper. Mais notre Seigneur est le juste souffrant par excellence. Un jour, dans le métro, à Paris, donc, une personne m'aborde et me dit, donc tout fort, hein, c'était « Ouais, alors pourquoi, si Dieu existe, y a-t-il tant de souffrances ?» Donc, réponse entre 2 stations de métro. Alors, la réponse que j'ai faite, c'est un peu dans le sens de ce que je viens de vous dire. D'abord, j'ai commencé par dire la question que vous posez est une question qui est très très difficile, d'abord. Moi, personne que je ne connaissais pas, hein, donc une question qui est très difficile. Et c'est vrai que la souffrance est un mystère. Elle est un mystère, et donc, par définition, un mystère, on peut pas le pénétrer pleinement, sinon ce serait plus un mystère. Donc là, vous me posez une question, une colle, puisque vous parlez d'un mystère, donc un mystère, par définition, je ne pourrais pas le résoudre. Maintenant, je peux quand même vous donner quelques éclairages sur ce mystère. C'est d'abord que Dieu n'a pas créé l'homme dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. C'est par le péché que la souffrance est rentrée dans le monde. Et puis ensuite, après, je lui ai dit, vous savez, donc, vous voyez bien que je suis prêtre catholique, vous savez que l'élément central dans la religion catholique, c'est le fait que le Christ, qui est Dieu lui-même, qui a pris une nature humaine, a accepté de souffrir et mourir sur une croix. Donc lui, il est le juste par excellence, et il a accepté de souffrir pour nous qui sommes pécheurs. Et donc le fait de savoir, quand on voit la somme de souffrances qu'il a endurées, eh bien cela nous aide nous-mêmes à aussi mieux porter notre croix. Même s'il est vrai que quand une grande croix nous tombe dessus, sur le moment, on n'a pas la lumière. Il dit, bon, merci mon père. Il m'a dit, bon, au revoir monsieur. Alors, les autres, je ne sais pas ce qu'ils ont pensé. Mais... Alors maintenant, notre Seigneur donne un nouveau sens à nos souffrances. Si notre Seigneur lui-même a tant souffert, c'est pour nous aider à mieux saisir d'abord la rigueur de la justice de Dieu et puis en même temps l'étendue de sa miséricorde. Donc la souffrance de notre Seigneur me révèle spécialement la gravité du péché. Oui. Est-ce que le péché c'est grave? Est-ce que c'est grave, en fait, de se laisser aller à ses fantaisies, à ses caprices, à ses désordres? Est-ce que c'est grave? Eh bien, regardons un crucifix, vous voyez. Quand on regarde vraiment un crucifix, en réalisant vraiment ce qui s'est passé, on se dit, ben oui, le péché, c'est grave, vous voyez. Donc, en imaginant que notre Seigneur, pour nous racheter, aurait simplement répandu une seule goutte de son sang ou un bel acte d'amour de Dieu son Père, envers Dieu son Père, eh bien, à ce moment-là, on aurait certainement moins eu conscience de la gravité du péché. Donc, si notre Seigneur a tant souffert, c'est pour nous aider à mieux saisir la gravité du péché. Le péché offense Dieu. Par le péché, l'homme préfère son moi à Dieu. Et donc, par le péché, il dit non à Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il refuse Dieu, il ne veut plus de Dieu, il voudrait que Dieu disparaisse. Et donc, il voudrait la mort de Dieu. Voilà ce que fait le péché, et donc voilà ce que nous révèle le crucifix. Et puis ensuite, le crucifix nous révèle aussi l'amour de Dieu, nous révèle la miséricorde de Dieu. Toutes les paroles de notre Seigneur sur la croix, chacune d'entre elles, à sa manière, est une parole de miséricorde, voyez. La première parole de notre Seigneur sur la croix, alors qu'il est donc en proie à des souffrances atroces, eh bien, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'en ai déjà parlé, donc c'est bien sûr une parole de miséricorde. Deuxième parole de notre Seigneur sur la croix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le bon larron, il a entendu, au départ, c'était pas le bon larron, hein, il blasphémait comme l'autre. Mais il a entendu notre Seigneur dire, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors il se dit, oh, il pardonne à ses bourreaux, à ceux qui le font souffrir, mais peut-être qu'il pourra aussi me pardonner. Et donc il lui dit, il commence par dire d'abord, nous c'est justice si nous souffrons. Lui n'a rien fait de mal. Donc il se fait l'avocat de notre Seigneur auprès de l'autre larron qui blasphème. Donc il reconnaît lui-même ses péchés. Donc il y a, pour recevoir le pardon de Dieu, il faut d'abord reconnaître ses péchés. Mais à partir du moment où on reconnaît ses péchés, eh bien notre Seigneur qui est miséricorde exerce sa miséricorde. Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Donc il lui a pas dit. Bon, ben alors là, donc tu avais commis tel délit, donc tu avais tué 3 personnes, tu avais ensuite après tabassé tant de personnes, etc. Bon, tu avais volé, donc voilà. Donc 365 années de purgatoire, et puis bon, allez, je vais être sympa, donc 300, non. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, vous voyez. Donc c'est quand même très très consolant, vous voyez, de voir cette miséricorde de notre Seigneur. Mais pour cela, il a quand même accepté la part de croix que le bon Dieu lui donnait, pour faire son salut, quoi. Nous, c'est justice si nous souffrons. Ensuite, troisième parole du Seigneur sur la croix, eh bien, c'est « Femme, voilà votre fils, fils, voilà votre mère. Ouais. » Notre Seigneur nous donne sa mère comme maman. Au moment même où on le traite vraiment d'une façon très indigne, c'est à ce moment-là, eh bien, qu'il nous donne sa mère. Parole encore de miséricorde. Il nous donne sa maman comme maman. Quatrième parole, j'ai soif. Non, plutôt c'était mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Mais alors ça, c'est encore une parole de miséricorde, mais alors qui s'adresse celle-là? On peut dire à, spécialement, donc aux princes des prêtres qui sont là, qui connaissent les prophéties. Puisque c'est une prophétie. Dans cette prophétie, il est indiqué qu'il aurait justement les mains et les pieds, donc il serait percé de clous. Qu'on tirerait au sort ses vêtements. Tout cela vient de se passer. Donc en disant, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Notre Seigneur dit, en fait, attention, je réalise les prophéties. Donc je suis bien, en fait, le Messie attendu. Donc c'est en fait une parole de miséricorde qui s'adresse aux Juifs pour leur faire prendre conscience qu'il est bien le Messie attendu. Donc c'est encore une parole de miséricorde. Ensuite, cinquième parole, j'ai soif. Le j'ai soif de notre Seigneur sur la croix, c'est bien sûr une soif physique déchirante qu'il avait. Parce qu'il avait perdu beaucoup de sang, parce qu'il n'avait rien bu plus la veille, et... Mais ce n'est pas uniquement une soif physique, c'est aussi surtout une soif spirituelle. Le Seigneur a soif du salut de nos âmes. Et si en méditant un jour la passion, eh bien, on est là au pied du crucifix, il faudrait essayer d'entendre notre Seigneur dire « j'ai soif ». Notre Seigneur a soif du salut de mon âme, notre Seigneur veut mon salut. et il veut que je coopère au salut d'autres âmes. Donc, vous voyez comment ces paroles de notre Seigneur sur la croix sont vraiment des paroles de miséricorde. Donc, notre Seigneur, à travers ses souffrances, nous révèle l'étendue de sa miséricorde. Est-ce que je suis sûr que le bon Dieu m'aime? Ben, regardons ce qu'il a fait pour moi, vous voyez. Donc, chaque fois qu'on regarde le crucifix, eh bien, par là, nous voyons cet amour de notre Seigneur pour nous. Alors, de quelle manière, alors, maintenant, accepter, alors, la part de croix que le bon Dieu nous donne pour faire notre salut? Eh bien, comme le bon larron, tout d'abord, il faudrait essayer d'accepter la part de souffrance que nous pouvons avoir comme un moyen d'expiation. Vous voyez. Nous pouvons dire, comme le bon larron, nous, c'est justice si nous souffrons. Et donc, accepter, en réparation, eh bien, de nos péchés, donc la part de croix que le bon Dieu nous donne pour faire notre salut. Donc il faut croire que la croix est vraiment pour nous l'un des meilleurs moyens en fait, d'abréger notre purgatoire. Ensuite aussi, alors c'est plus difficile peut-être pour certains à comprendre, on a entendu dans la lecture de table avec l'exemple du Padre Pio, et peut-être Mgr Lefebvre aussi le disait dans une autre conférence, Saint Paul disait « Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ au profit de son corps qui est l'Église. » Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ au profit de son corps qui est l'Église. Colossiens chapitre 1er verset 24. Donc l'Église c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Notre Seigneur est la tête du corps mystique. Notre Seigneur c'est par la souffrance qu'il a gagné le ciel. Eh bien, les membres du corps mystique de notre Seigneur doivent aussi, en union avec la tête, connaître une part de souffrance pour faire leur salut. Donc la souffrance chrétienne est vraiment une participation aux souffrances de notre Seigneur. Et c'est si vrai que les souffrances qui sont faites spécialement aux chrétiens, notre Seigneur, à travers les souffrances des chrétiens, s'identifie à eux. Par exemple, lorsque Saul était persécuteur des chrétiens et qu'il est donc il tombe de son cheval terrassé sur le chemin de Damas par notre Seigneur lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit pas « Pourquoi tu persécutes les chrétiens ?»« Pourquoi me persécutes-tu » Vous voyez. Donc notre Seigneur s'identifiait aux chrétiens qui étaient à l'époque persécutés. Donc les chrétiens prolonge en fait donc la vie de notre Seigneur. Voyez. Donc notre Seigneur souffre à travers eux. Ensuite, on peut constater, là c'est l'expérience du ministère qui le montre, la souffrance est souvent l'occasion, pour beaucoup d'âmes en tout cas, de revenir vers Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, comme l'homme a beaucoup perdu le sens de Dieu, les gens sont athées lorsque ça va bien. Et par contre, lorsque ça va mal, alors là, ils se mettent à croire en Dieu, mais pour le blasphémer. Vous voyez. Pourquoi Dieu permet cela? Alors, c'est que vous y croyez, alors, finalement. Tout d'un coup, vous vous mettez à croire en Dieu. Le jour où vous avez une tuile, mais pour le blasphémer. Vous voyez. Donc, malheureusement, donc des personnes se révoltent contre Dieu au moment de la souffrance. Mais on peut constater quand même, heureusement d'ailleurs, que beaucoup d'âmes reviennent à Dieu par la souffrance. Et ça, c'est sûr que peut-être 9 sur 10 des personnes qui adultes reviennent à Dieu par la souffrance. C'est l'histoire de l'enfant prodigue qui se renouvelle, vous voyez. L'enfant prodigue, tant qu'il avait de l'argent pour faire la fête, il n'y a pas eu de problème. Hein. Donc là, en ce moment-là, il a claqué tout cet argent. Mais le jour, alors, il se retrouvait au milieu des pourceaux avec rien à mettre sous la dent. Alors, à ce moment-là, il s'est dit, finalement, j'étais quand même pas si malheureux que ça chez mon père. Quoi. Et à ce moment-là, il a fait son examen de conscience, et puis après, il est revenu chez son père. Quoi. Donc, c'est souvent la souffrance, c'est l'occasion pour des âmes de revenir vers Dieu. J'ai eu l'occasion, comme ça, par exemple, une fois, ma mère était donc dans une maison de repos, j'étais allé la voir, et puis un monsieur vient me voir d'une trentaine d'années, et puis il me dit, mon père, est-ce que je pourrais vous voir? Je dis, si vous voulez, bon. Et puis, donc, j'ai pris rendez-vous avec lui le soir, 20h. Donc, 20h, personne. 20h15, personne. 20h30, peut-être 20h35. Donc, voilà qui arrive. Ouais, mon père, est-ce que vous auriez un peu d'argent? Je dis, il va me taper, celui-là, bon. Alors bon, je lui dis, bon, allez, on va faire un petit tour, alors on va marcher un petit peu. Donc, j'ai pas répondu à sa question par sa question. Je lui dis, on va faire une petite promenade. Et puis là, dans la promenade, alors j'ai commencé à essayer de le faire réfléchir un petit peu, quoi. Et puis, donc en le faisant parler, donc je me suis aperçu que, bon, c'est sûr qu'il y avait du travail à faire. Donc, et puis après, je lui ai demandé s'il s'était déjà confessé. Alors, je ne sais plus ce qu'il m'avait répondu, mais en tout cas, c'était faisait très, 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 très longtemps. Puis il avait dit, n'importe comment, me confesser. Moi, je voudrais bien, mais alors, il y en aura pour un moment, là. « Oh, mais c'est pas grave, moi j'ai tout mon temps, hein !» Et en fait, en marchant, je me rendais, et lui ne le savait pas, vers une chapelle, parce que j'avais les clés d'une chapelle, et je me rendais vers une chapelle. Donc, sur le chemin, donc on a fait l'examen de conscience ensemble, et puis après, arrivé à la chapelle, eh bien, je lui dis, « Bon, alors vous êtes prêt à vous confesser ?»« Oh, bah pourquoi pas ?» Très bien. Donc, il s'est confessé. Et puis après, il s'est senti, mais vraiment bien, quoi. Donc, c'est pas sûr que ça se comprend, hein. Et donc, alors, après la confession, il me dit, alors, est-ce que, en souvenir, là, de ce bon moment, vous pourriez me passer quelque chose? Il tenait toujours. Alors, j'avais des images dans mon bréviaire, et donc, je lui dis, tiens, je vais donner des images. Alors, j'avais une prière de l'abbé Lapra, sur la souffrance, et puis, j'avais, une image du cœur immaculé de Marie. Alors, je lui propose les deux images. Et laquelle des deux vous voulez? Il me dit, oh, bah, je prends les deux, qui me dit, bon, très bien. Bon, très bien. Donc, il a pris les deux. Et alors, il s'est mis à lire la prière de l'abbé Lapra, vous voyez. Où l'abbé Lapra, donc, offrait ses souffrances en union avec celle de notre Seigneur. Alors, au début, il lisait d'une façon un peu distraite. Et après, il faisait sienne, vous voyez, la prière. Alors, j'étais vraiment très ému par cela. Et puis après, comme je restais encore quelques jours dans cette maison, je lui ai donné rendez-vous après pour lui donner, l'extrême onction. Parce qu'il était vraiment en fin de vie. Donc, deux ou trois jours après, je lui ai donné l'extrême onction. Et là, alors, il a senti un bien-être en lui. Et en sortant de la chapelle, il me dit, je n'ai peut-être jamais été heureux dans ma vie, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis heureux. Et c'est vrai ce que je vous dis, mon père. Donc, c'est une belle histoire. Donc, comment la souffrance, eh bien, ramène donc des âmes à Dieu. Notre Seigneur disait à Sainte Catherine de Sienne, dans ses dialogues, « J'ai voulu détourner l'homme de placer son espérance dans le monde, pour l'amener à courir droit à moi qui suis sa fin. Et j'ai pensé que du moins, les coups répétés des tristesses humaines lui apprendraient à placer plus haut son cœur et ses désirs. » Donc le bon Dieu permet qu'il y ait qu'on prenne conscience par des déceptions dans la vie, eh bien que de mettre son cœur dans les biens terrestres ou dans les biens sensibles, eh bien ce n'est pas l'idéal pour nous. C'est que notre cœur est fait pour quelque chose de plus grand. Ouais. De même, Charles Foucault disait de son côté, les peines de la terre sont faites pour nous faire sentir l'exil et nous faire soupirer après la patrie. Donc là, c'est un autre motif. C'est que, on n'est pas fait pour la terre, on est fait pour le ciel. Et bien qu'on ne soit pas fait pour la terre, et bien qu'on en bave sur la terre, malgré tout, on aime cette terre. Alors, le bon Dieu permet qu'il y ait des épreuves sur cette terre parce que si on avait moins d'épreuves, eh bien, on s'accrocherait encore davantage à cette terre. Au point d'en oublier le ciel. Et oublier le ciel, c'est oublier l'essentiel. On est fait vraiment pour le ciel. Quand on sera de l'autre côté, on se dira, ben oui, enfin, c'est déjà clair, j'espère, dans notre tête, mais ça le sera encore bien plus lorsqu'on sera de l'autre côté. Et donc, nos épreuves ont aussi pour but, pour nous, petit à petit, vous voyez, le bon Dieu nous détache de la terre. Voyez. Un peu comme j'ai dit, la souffrance de la Sainte Vierge lorsque son enfant avait 12 ans, l'a disposé à une souffrance plus grande, mais l'a disposé ensuite à se détacher un peu plus de la terre, toujours, pour arriver au ciel, vous voyez. Donc, le bon Dieu, petit à petit, nous détache. Vous voyez, dans la vie, il y a ces séparations pour arriver ensuite à avec ces personnes que nous connaissons qui passent de l'autre côté, qui nous préparent le terrain. Et puis, bon, c'est comme ça que petit à petit, on doit essayer de monter vers le ciel. Vous voyez. Alors maintenant aussi, le bon Dieu permet ces souffrances pour nous-mêmes, pour que nous puissions manifester au bon Dieu notre amour. Manifester au bon Dieu notre amour quand les choses vont bien, c'est facile, vous voyez. Même parfois entre fiancés, lorsqu'il y a des épreuves, en tout cas, moi je leur parle souvent de l'épreuve de l'amour. Je me dis, bon, ben, il y a telle épreuve, donc problème de la belle famille, la belle-mère, enfin, déjà ça commence. Et puis problème différent, bon, voilà, problème de travail, problème de je sais pas quoi, bon, problème. Bon. Eh bien, je leur dis, c'est l'épreuve de l'amour. Donc voyez-le comme cela, et donc vivez-le comme cela. Et de fait, si vous constatez dans cette épreuve, si vous arrivez ensemble à gérer cette épreuve, hein, en vous soutenant l'un l'autre, alors à ce moment-là, c'est le signe que dans les épreuves de la vie, vous pourrez arriver à gérer aussi ensemble ces épreuves. Mais si au contraire ça provoque en vous des tiraillements et que, eh bien, c'est déjà mal parti, quoi. Donc, l'épreuve est pour nous le moyen de manifester notre amour, voyez. Si une personne, voyez, nous abandonne dès lors que, qu'on souffre ou qu'on devient plus un poids qu'une aide, eh bien, si elle nous abandonne tout de suite, c'est le signe que finalement elle ne nous aimait pas vraiment, voyez. Si on aime quelqu'un, normalement on doit lui rester fidèle dans l'adversité. Si on ne reste pas fidèle dans l'adversité, c'est le signe qu'on ne l'aimait pas vraiment, voyez. Et donc, notre Seigneur, d'une certaine manière, veut tester notre amour, voyez. Et donc, si on reste près de lui uniquement quand il nous cajole ou quand la vie nous sourit, eh bien, c'est le signe que, c'est pas encore en tout cas un signe certain qu'on l'aime. Si par contre on reste près de lui dans l'adversité, ben, c'est le signe qu'on l'aime vraiment. Oui. Charles Foucault disait, dans ce triste monde, nous avons au fond un bonheur que n'ont ni les saints ni les anges, celui de souffrir avec notre bien-aimé. Ô bonne croix, disait saint André. Et sainte Catherine de Sienne, la tribulation est le signe qui nous fait juger de la perfection ou de l'imperfection de la charité dans une âme. Car il n'y a pas d'autre moyen de prouver à Dieu qu'on l'aime que de supporter avec patience les épreuves de cette vie. Est-ce que j'aime Dieu? Ben, comment je porte ma croix? Si je râle chaque fois que j'ai une croix, ben, mon amour de Dieu n'est pas encore parfait, voyez. Parce que j'ai pas encore vraiment bien intégré dans ma vie cette loi de la souffrance, voyez. J'ai pas encore saisi que la souffrance est pour moi une manière de manifester mon amour, voyez. Si au contraire dans la souffrance je ne me plains pas, j'offre ma souffrance, eh bien ça c'est le signe que j'ai déjà mieux compris, eh bien que le sens de la vie chrétienne. Voyez. Et ne croyons pas que donc les épreuves soient un signe de l'abandon de Dieu, voyez, à notre égard. Voyez. Sainte Thérèse d'Avila disait exactement le contraire. Elle disait Dieu conduit ce qu'il aime par la voie des épreuves, et plus il les aime, plus il leur envoie des preuves. Alors on aimerait bien parfois que le bon Dieu nous aime un peu moins, alors, je ne sais pas. Et Sainte Thérèse d'Avila, d'ailleurs, parlait d'expérience, et un jour, elle allait d'un Carmel à l'autre, et puis elle a fait une chute, la carriole dans laquelle elle se trouvait s'est renversée, elle s'est retrouvée les quatre fers en l'air. Et à ce moment-là, alors elle a eu du tac au tac cette répartie, en disant « Mon Dieu, je comprends pourquoi vous avez si peu d'amis quand je vois comment vous les traitez. » C'était une sainte qui pouvait se permettre, mais... Elle disait encore, je suis persuadée que la force de supporter une grande croix ou une petite a pour mesure celle de l'amour. Je suis persuadée que la force de supporter une grande croix ou une petite a pour mesure celle de l'amour. Voyez. Et c'est vrai. L'amour donne des ailes, voyez. Une maman, eh bien, elle sera capable de souffrir beaucoup plus pour son enfant que pour l'enfant d'un autre. Pourquoi? Bah parce qu'elle aime cet enfant. Et si c'est en plus son enfant chéri qui souffre davantage, bon, elle souffrira, elle aura plus de facilité à s'oublier complètement pour cet enfant qu'elle aime particulièrement. Bon, assurément, la maman doit aimer tous ses enfants, mais si elle a un enfant auquel elle est un peu plus attachée, eh bien, elle aura plus de facilité à souffrir pour cet enfant-là. C'est évident. Ouais. Même si, en général, elle souffrira souvent plus de celui qui l'a fait en baver plus, donc elle aura tendance à peut-être à moins aimer, mais ça, c'est les circonstances. Mais si, sinon, c'est sûr que si on aime davantage, eh bien, on souffre avec plus de facilité. Plus on aime, plus on souffre. Si une personne que vous n'aimez pas vous demande un service, parce que vous êtes charitable, vous allez bien sûr faire ce service, mais ça vous coûtera beaucoup plus que si une personne que vous aimez. Si vous avez une personne que vous aimez, ça passera comme une lettre à la poste. Ce sera beaucoup plus facile. Donc, si on a du mal à accepter la souffrance, ça veut dire qu'on n'aime pas suffisamment encore. Donc, plus on aimera, plus ce sera facile. Alors la grâce à demander, en tout cas c'est ce que j'essaie d'apprendre aux enfants à Pouilly, parce que j'ai sur l'aumônerie de cette école de Pouilly depuis 10 ans, donc j'essaie de leur apprendre, alors qu'elles sont encore petites, enfin entre 12 et 18 ans, à apprendre à accepter la souffrance, et ensuite offrir la souffrance. Et normalement après, il faudrait arriver à remercier. Mais quand on ramasse une baffe, dire merci, c'est pas forcément évident, quoi. Mais au moins, accepter, quoi. Il faut qu'il y ait une acceptation. Parce que parfois dans la vie, si vous voulez, quelqu'un vous a fait une crasse et donc vous ne lui avez pas pardonné. Ouais. Donc ça veut dire que vous n'avez pas accepté. Et donc ça veut dire que c'est ça. À l'intérieur de vous, vous allez ruminer, vous allez broyer du noir. Donc ça va pourrir dans votre intérieur. Ouais. Alors en plus, comme la femme est plus sensible que l'homme, ça lui est plus difficile. Alors après, ça dépend des tempéraments. Il y a des tempéraments souvent colériques, souvent... ça sort plus vite que c'est parti, mais ensuite après, bon, on a oublié l'instant d'après, quoi. Mais les gens qui sont un peu plus rancuniers, alors là, quand ça prend racine, c'est vraiment très 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 mauvais. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment dire du fond du cœur notre Père tous les soirs avant de se coucher. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc tout ce qui est souffert doit être offert. Dans le livre L'Ermitage, ce livre écrit par un chartreux, l'auteur dit « Tout ce qui est douloureux, physiquement, moralement, spirituellement, quel qu'en soit l'instrument, homme, chose, événement, même si vous en êtes la cause, a valeur de croix pour l'esprit de foi. Il vous suffit d'accepter et d'offrir les conséquences pénibles de vos fautes ou de vos maladresses. L'Église appelle heureux péché la désastreuse faiblesse d'Adam. Les suites ennuyeuses de vos égarements, amoureusement portés, en sont la meilleure pénitence. Faites ainsi, vous aurez toujours la paix. Il se peut que le Seigneur alourdisse votre croix. Il a tant de manières d'éprouver ce merveilleux instrument de souffrance qu'est la sensibilité. Lui qui l'a faite, la touche en artiste. Dieu nous prend toujours au sérieux. Vous aurez parfois envie de le lui reprocher. Seul un regard vers le crucifix peut étouffer vos murmures sans pour autant volatiliser vos souffrances. Si vous aimez intensément, vous désirerez être étendu sur la croix. Ce désir est un sommet. Ne vous désolez pas d'en être loin. C'est bien déjà de ne jamais vous révolter ni fuir. Jésus lui-même n'est pas monté au calvaire dans une marche triomphale. Ne le quittez pas des yeux. Songez, vous dit saint Paul, à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. Défiez-vous de l'enthousiasme d'imprimerie. Il est facile d'écrire à son bureau des sublimités. La Sainte Écriture est plus réaliste, plus au fait du pauvre cœur humain. Dieu qui l'a inspiré est aussi celui qui vous a modelé. Et nos doléances amoureusement résignées ne peuvent lui déplaire quand elles s'adressent à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous soulagerai. Nos gémissements ont ému le cœur d'où jaillit une telle parole. S'il ne faut jamais se plaindre de Dieu aux hommes, il admet que nous lui fassions de doux reproches. Vous porterez vos croix sans forfanterie. Ni la grâce qui vous soutient, ni l'énergie de votre correspondance ne leur ôteront leur caractère pénible. La nature continuera de geindre et d'éprouver la même horreur pour ceux qui la lacèrent et la broient, la même envie de fuir ceux qui la molestent. La croix ne serait plus la croix si elle cessait d'affliger. Seule la partie spirituelle de votre âme pourra s'en réjouir, encore que cette joie elle ne la puisera pas en elle-même, elle est un don de Dieu. Vous devez beaucoup prier. Craignez votre faiblesse. Vous n'êtes pas plus brave que les apôtres qui se récriaient à la prophétie de Jésus. Vous allez vous scandaliser à cause de moi cette nuit même, ce qui arriva. Votre seule assurance, c'est que Jésus ait pitié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas. Soyez humble, ne devancez pas la grâce. Portez de votre mieux les croix de Providence avant d'en souhaiter de plus lourdes. Le danger lointain n'effraie pas. Combien sont paralysés à son approche. Pourtant, demandez l'amour de la croix. Donc on ne vous dit pas de demander la croix, mais demandez l'amour de la croix. C'est-à-dire que spontanément, on a tous tendance à ne pas vouloir de la croix. Vous voyez, la croix nous fait peur. Donc on a tendance à ne pas en vouloir. Donc il faut demander au bon Dieu, Seigneur, aidez-moi à changer ma vision, à essayer d'avoir un regard chrétien sur la croix, et donc à aimer la croix. La résignation est l'infime degré de l'adhésion à la volonté de Dieu. Elle manque de chaleur et d'élan. Elle laisse comme un arrière-goût de regret. La foi en la sagesse, en la puissance, en la bonté de Dieu n'a pas sur l'âme toute son emprise. Autre chose est d'accepter ce que Dieu veut. Autre chose est de l'accueillir, de le vouloir positivement avec lui dans la claire vue du bien de la croix. Vous ne pouvez vous donner à vous-même cette illumination dynamique. De longues méditations sur la passion vous y préparent. La prière instante et la générosité dans les sacrifices courants inclinent le Seigneur à vous faire cette grâce. Mais vous porterez longtemps, sans doute, l'humiliation d'une secrète aversion pour la croix. Tout au moins, ne fuyez pas à la première alerte, ne criez pas pour une égratignure. Donc voilà un petit peu ces conseils qui me paraissent vraiment très très précieux. Alors maintenant, ce qui est important, parce que donc il y a toujours l'imagination qui travaille, c'est de ne pas imaginer, si vous voulez, que Oui, mais alors si j'aime davantage le bon Dieu, j'aurai plus de croix parce que le bon Dieu éprouve ce qu'il aime. Donc, enfin, ne vous compliquez pas la vie. Je dois porter aujourd'hui la croix d'aujourd'hui. Vous voyez. Donc la croix, après, c'est quelque chose qui peut aussi paraître abstrait, mais il faut être concret. Vous voyez. La croix, ce sont les épreuves du matin au soir. Aujourd'hui, j'ai mal à la tête. J'ai telle personne à voir que j'apprécie moins, donc il faudra que je fasse un effort, etc. Bon, ce sont les, il faut être, faut, à travers la croix, il faut voir la croix concrètement telle qu'elle est. À savoir, c'est donc tout ce qui nous coûte d'une manière ou d'une autre. Donc il faut essayer de l'accepter positivement. Alors, bon, je suis toujours trop long, donc après je passe. Alors, quelques petits conseils pour terminer de Saint-Louis-Marie Grignion de Montfort. Donc, premier conseil, dans la ligne de ce que je viens de dire, donc ne pas alourdir sa croix inutilement. Donc, ne pas porter aujourd'hui la croix de demain, vous voyez. On n'a pas la grâce pour demain, encore moins pour après-demain. Donc, portez aujourd'hui la croix d'aujourd'hui. Spécialement dans les moments d'épreuve, vous voyez, où les périodes vont plus mal. Vous avez un peu de tension dans le ménage, ça fait 20 ans que vous êtes marié. Ouais, ça fait 20 ans que ça dure, moi j'arriverai pas à tenir encore 30 ans comme ça. Ouya! 50 ans de croix sur l'épaule, ben, je comprends que ça fasse mal, quoi, vous voyez. Bon, je vais essayer de tenir au moins jusqu'à ce soir, quoi, vous voyez. Jusqu'à ce soir, je pense que ça ira, hein. Et puis après, j'ai pas la grâce pour demain. Donc, demain, le lendemain matin, ben, j'essaierai encore de tenir aujourd'hui, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on avance, vous voyez. Sinon, donc ne pas porter aujourd'hui la croix de demain. Conseil de l'Évangile, c'est notre Seigneur qui le dit. À chaque jour suffit sa peine. Vous voyez. Donc vouloir porter aujourd'hui la croix de demain, c'est manquer de confiance en la Providence. Ensuite, deuxièmement, admirer sans prétendre l'atteindre la sublime vertu des saints. Donc parfois on lit la vie des saints et puis on regarde notre vie à côté. On dit, oh là, moi j'arriverai jamais quoi. C'est impossible une chose pareille. Mais on vous demande pas cela. On vous demande de porter aujourd'hui la croix d'aujourd'hui. Donc, il faut parfois, les saints sont parfois plus admirables qu'imitables, vous voyez. Parfois, ils sont imitables, mais pas, ils sont pas imitables dans tous les domaines, vous voyez. Sinon, vous allez devenir mystico-dingo, et puis après, ça durera 15 jours, et puis après, ça sera fini. Ensuite, demander la sagesse de la croix. Donc, ça va un petit peu dans la même ligne que tout à l'heure, demander l'amour de la croix. Donc, demander au bon Dieu d'intégrer dans notre vie cette notion-là, parce que ça nous dépasse, parce que c'est pas, ça dépasse notre vue humaine. Donc, il faut demander au bon Dieu de nous faire comprendre un petit peu le sens de nos croix. Voilà. Ensuite, s'humilier de ses fautes sans se troubler. Oui. Donc, essayer de ne pas se troubler de ses fautes. C'est pas facile, hein. Donc, pour ça, il faut avoir conscience de notre petitesse. Oui. Si je suis conscient de ma petitesse, qu'une personne petite tombe, c'est pas étonnant. Un petit qui tombe, c'est normal. Oui. Donc, il faut savoir s'humilier, bien sûr, mais ensuite, ne pas se troubler outre mesure. Ensuite, dans les croix également, éviter le piège de l'orgueil. Donc, ne pas se croire meilleur que d'autres, parce que ça y est, j'ai une croix qui est lourde, j'ai l'impression de l'avoir bien portée. Bon. Ensuite, faire bien attention spécialement à la manière de souffrir plus qu'à l'intensité de la souffrance. Voyez. Comme dit Saint-Louis-Marie de Montfort, souffrir beaucoup et souffrir mal, c'est souffrir en damné. Souffrir beaucoup et avec courage, mais pour une mauvaise cause, c'est souffrir en martyr du démon. Souffrir peu ou beaucoup, mais souffrir pour Dieu, c'est souffrir en saint. Donc une petite souffrance qui est bien offerte, eh bien, nous acquiert des mérites pour le ciel. Donc voilà, il faut apprendre à bien souffrir les petites souffrances. Ensuite, quand on dit d'arriver à l'amour de la croix, comprenons bien ce que l'on veut dire. On ne veut pas dire aimer la croix d'un amour sensible. Donc le fait d'avoir une répulsion par rapport à la croix dans sa sensibilité, c'est normal. Même les saints l'ont eu, vous voyez. Même notre Seigneur l'a eu. Notre Seigneur dit, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi, s'il est possible, vous voyez. Mais après, non pas ma volonté, mais la vôtre. Donc c'est au niveau de la volonté que notre Seigneur donc s'est soumis à la volonté de Dieu, mais pas dans sa sensibilité. La sensibilité répugne à souffrir et répugnera toujours à souffrir, vous voyez. Ça, c'est comme ça. Donc, il est impossible d'aimer la croix d'un amour sensible. Ensuite, après, accepter donc toutes sortes de croix sans exception et sans choix. Se dire toujours que les meilleures croix sont celles qu'on ne choisit pas. Charles Foucault disait, c'est par les croix que nous envoie Jésus, bien plus que par les mortifications de notre choix, que nous boirons au calice de l'époux et serons baptisés de son baptême. Car bien mieux que nous, il sait nous crucifier. Et encore, Jésus choisit pour chacun le genre de souffrance qu'il voit le plus propre à nous sanctifier. Et souvent, la croix qu'il nous donne est celle que l'on comprend le moins. Il nous dirige dans les pâturages amers et qu'il sait bon. Pauvres brebis, nous sommes si aveugles. Voilà. Et puis après, pour terminer, alors les quatre stimulants de la bonne souffrance, l'œil de Dieu. L'œil de Dieu qui regarde avec amour les âmes qui souffrent pour lui. Ensuite, la main de Dieu qui nous frappe pour nous punir de nos infidélités, donc c'est le côté châtiment, mais aussi la main de Dieu qui nous soutient, qui nous aide à porter notre croix. Troisième stimulant, après l'œil de Dieu et la main de Dieu, les plaies de notre Seigneur. Et puis enfin, la récompense promise aux élus et le châtiment des pécheurs. Donc bien sûr, comme je l'ai déjà dit, c'est très facile de discourir sur la souffrance et c'est bien plus difficile de la vivre concrètement. Mais il me semble en tout cas que c'est quand même important de réfléchir à cela, de réfléchir à la nécessité de la souffrance et de la mort pour arriver à la vraie vie. Et donc de demander à notre Seigneur la grâce de ne pas reculer devant le mystère de la croix. Et certainement aussi que si nous apprenons, en disant les mystères douloureux, à méditer la passion de notre Seigneur, cela nous aidera. Et en assistant à la Sainte Messe, en voyant à travers la messe vraiment la croix de notre Seigneur, eh bien nous arriverons petit à petit à mieux porter notre croix. Voilà, nous rendons la chapelle.